du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va demander au Esprit Saint de souffler. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui illuminez les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bon et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Alors, Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors, du coup, Dieu soit béni et bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de commencer, je voulais remercier qu'à la dernière fête que nous avons vécue dernièrement, c'est donc le jubilé, là, l'action de grâce pour les 25 ans de vie religieuse. Et on va de fête en fête, parce que là, nous, ce soir, c'est les vœux de notre sœur, et puis et la grande semaine eucharistique qu'on va vivre à la Visitation, avec la fête du Sacré-Cœur. Et du coup, là, je tenais à remercier pour toutes les prières qui ont été faites pour ma sanctification, parce que on recommence pour 25 ans, pour tous les cadeaux. Et parce que ben, le monde n'est pas encore, tout le monde ne connaît pas encore le Sacré-Cœur, donc j'ai encore du travail, on va dire.
Ah, c'est les noces d'or.
Oh oui, je connais pas grand chose,
mais
c'est
vraiment la jubilée
d'argent. C'est oui, c'est ça, ouais, ça brille un peu plus. mais voilà, enfin, très touchée. Je pensais pas avoir. Enfin, là, le monde était bien présent. Et ça fait toujours plaisir hein, de revoir. Donc, j'ai fait partie du scoutisme donc, quand j'étais jeune. Et de revoir des enfants que j'ai accompagnés qui avaient 7 ans, 8 ans, 12 ans, et les revoir là adultes, ça fait un drôle d'effet. Hein, vraiment merci beaucoup de m'avoir entourée, surtout par la prière et tous les cadeaux qui ont pu être faits. Et donc aujourd'hui, à quelques jours de la fête du Sacré-Cœur, on est aussi dans cette troisième grande apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Et il s'avère quand même que c'est beau la providence qui conduit toute chose. Et bien, dans cette troisième apparition, notre Seigneur lui évoque justement cette fête du Sacré-Cœur qu'elle devra faire instituer dans la Sainte Église. Et il n'y a pas à demander qu'est-ce que je vais faire pour réparer le jour de la fête du Sacré-Cœur, contrairement à la fête qu'on va avoir demain du Corpus Christi, le corps du Christ, corps et sang du Christ, c'est une fête d'action de grâce demain. La fête du Sacré-Cœur est une fête de réparation. Hein. Mais on va le voir, alors j'espère qu'on va avoir le temps de tout voir, mais on ne répare pas parce qu'on va avoir des mines tristes. Voilà, c'est l'amour qui répare. Hein, et c'est tout l'enjeu de nos réparations, mais ce qui est beau, c'est que notre Seigneur nous donne les moyens de réparer, et il dit hein, « C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là, et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur. » Donc, intéressant, influence de son divin amour. C'est pas « je me suis consacrée » et c'est vrai qu'on peut, il manque pas la consécration à son cœur ce jour-là. On peut renouveler sa consécration, hein. Mais c'est pas je dis ma consécration, je renouvelle ma consécration, donc je suis toute à Jésus et j'accueille l'intention première du Sacré-Cœur, c'est le salut des âmes. Et normalement, tout va bien se passer. C'est-à-dire que c'est un peu ma sécurité, mon passe. J'aurai pas d'épreuve, j'aurai pas la croix va m'être épargnée, etc. Alors tout ça on le dit pas, c'est un peu dans la tête. Non, c'est pas ça l'amende honorable et ses influences, ses divines influences de son divin amour sur nos vies. Hein. C'est comme un enfant, c'est ça, de se laisser influencer par le Saint-Esprit. c'est je me laisse faire hein, par la grâce. Et donc la grâce, c'est pas du sucre, c'est la vie divine. Et qu'est-ce que tend à faire la grâce ? À nous dilater de l'intérieur pour que Dieu rentre davantage et nous fasse plus à sa ressemblance, que sa volonté soit plus facilement accueillie par la nôtre, hein, qui est un petit peu des fois, qui manque de souplesse à cause de notre amour propre. Hein. C'est ça la divine influence que veut exercer sur nos vies. Que c'est sûr que, de plus, enfin je veux dire, de façon hein, peut-être un peu déguisée ou enfouie, on envisage malheureusement notre vie avec le Seigneur plus comme ben, comme je t'aime, je fais tout ce que je peux pour toi, et bien j'ai pas de bénédiction, j'ai que des difficultés, la croix marque ma vie. Je le redis, et notre Sainte Sœur va nous le redire aujourd'hui, c'est plus chéri sont marqués justement de la croix. Hein. Mais après, c'est tout un art de vivre la croix avec le Sacré-Cœur. Hein. Si on subit la croix, bien entendu, qu'on se laisse écraser du coup par elle, alors que si on l'accueille, parce que dessus, il y a le Sauveur, c'est-à-dire qu'on voit le Sauveur sur la croix, elle aura un autre retentissement dans nos vies. Parce que, comme pour vous, comme pour moi, c'est pas facile, la croix, quand elle nous traverse, hein, c'est... Mais on n'a jamais non plus dit que c'était facile. Après, c'est comment je vais la vivre. Alors du coup, la dernière fois, on s'était quitté sur la notion de mérite et nous avions vu la notion de satisfaction, parce que si on est dans cette logique de la troisième grande apparition, qui en somme demande, Jésus demande à Sainte Marguerite Marie de réparer, hein, d'où l'institution de l'appel du Sacré-Cœur. Et la spiritualité de la réparation, on pourrait aussi la renommer, qu'elle consiste en fait, quand ce mot réparation pourrait être remplacé par le mot satisfaction. Alors, ce sont souvent des mots que pour nous qui ont été vidés de leur sens, on les emploie quasi plus, mais si on ne sait pas ce que c'est que la satisfaction et ni le mérite, bien le risque c'est que la réparation elle va devenir... je t'indemnise, hein, j'indemnise mon prochain du tort que je lui ai fait. Alors que normalement la réparation, elle s'adresse à Dieu, mais pas à mon prochain. Alors du coup, ces quelques mots, donc pour définir ceux et celles qui prennent le train en route, donc voilà, la notion de satisfaction, je la redonne brièvement. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde, entre autres, pour réparer l'alliance que les créatures avaient brisé par le péché dès le début de l'histoire. C'est une réparation accomplie dans l'amour, tout d'abord en direction du Père éternel. Et saint Thomas dit hein, que la charité du Christ souffrant a surpassé la malice de ceux qui l'ont crucifié. Aussi, la satisfaction offerte par le Christ dans sa passion a-t-elle été plus grande que l'offense que ses meurtriers ont commise en le tuant ? C'est au point que la passion du Christ a été une satisfaction suffisante et même surabondante pour les péchés de ses meurtriers. Et la réparation va donc consister, pas entre guillemets, s'amadouer en Dieu pour qu'il me bénisse, mais à satisfaire, donc satisfaction vient du mot satisfaire, satisfaction en latin ça veut dire satisfacere, donc il est composé de deux mots, faire assez, donc l'idée de compenser, mais aussi de se rendre agréable. Jésus a réparé notre péché, le péché de nos premiers parents et le nôtre, par sa passion. Et la réparation consiste à réparer les conséquences du péché, on va dire, mais pas autre chose. Alors les mérites, on avait vu cette autre notion pour avancer dans le sujet, il est important de le redonner. Nous avons vu que selon le projet de Dieu sur l'humanité, la Trinité Sainte veut que l'homme mérite. Alors, je le disais avec mes sœurs, à votre avis, qu'est-ce que Dieu veut qu'on mérite ? En somme, Dieu veut qu'on mérite qu'une seule chose, et qui, à mon avis, est loin de nos pensées, la joie éternelle dans le paradis. Voilà. Pour saint Thomas, la seule chose qu'on doit mériter, c'est la vie éternelle. Et c'est intéressant, je le faisais avec mes sœurs, et de me demander est-ce que ça comment dirais-je, c'est présent dans ma vie, cette vie éternelle, est-ce que tous les jours quand je me lève, quand j'ai mon prochain, est-ce que mon attitude face aux membres de ma famille, voilà, je suis comment dire, préoccupé dans le bon sens du terme, de la vie éternelle. Hein, et alors nous, notre saint fondateur avait justement sa tête au ciel, donc la vie éternelle faisait partie de son programme du quotidien, et il avait ses deux pieds bien sur le sol, et comme il disait, déchaussé de l'orgueil. Alors cette récompense de la vie éternelle sera donnée en rétribution des bonnes œuvres accomplies par chacun au cours de sa vie terrestre. Et chacun est donc appelé par Dieu à mériter la récompense du ciel. Saint Thomas toujours précise que parmi les mérites, les souffrances des saints sont revêtues d'une grande puissance sur le cœur de Dieu en vue de la transformation du monde. On parle ainsi, et on s'est arrêté à peu près là, de la spiritualité victimale. Notre saint fondateur a donné à ses filles de s'offrir en hostie d'Holocauste. Alors, c'est l'âme victime n'est pas une malade hein, de la souffrance, un petit peu comme ça, malheureusement, qu'on peut des fois penser qu'une âme victime, elle recherche la souffrance pour la souffrance parce qu'elle est du coup un peu malade, il faut réparer, faut... Alors, non, Sainte Marguerite Marie, quand on lit ses lettres, c'est sûr hein, qu'elle était... qu'elle était habitée par une grande soif de la souffrance, mais c'était pas sa soif, hein, c'était la soif des âmes qui l'habitaient. Hein, et c'est plutôt une âme qui brûle de l'amour de Dieu. Hein, et souvent je dis, c'est plutôt nous qui sommes handicapés hein, de cet amour, on est privés de cet amour, où nous on mesure le salut des âmes à notre niveau. Les saints, c'est pour ça qu'ils sont capables de prouesses, on va dire, dans la souffrance, c'est qu'il y a un désir qui n'est pas le leur, je leur dis, mais qui est celui de Jésus et qui l'a fait désirer sa passion. Donc elles sont habitées par une haute charité, et n'oublions pas hein, que ce n'est pas la souffrance qui sauve les âmes, mais l'amour, son amour. L'âme victime est une âme qui est transformée par Dieu. Alors, je vous partage un petit dialogue que notre sainte sœur aura, parce que c'est donc sa vocation, c'est la vocation de toute visitandine, c'est aussi la vocation de garde d'honneur, hein, d'être victime. Hein. Donc, alors, on va voir à quoi ça consiste, et ça nous place dans cette spiritualité de la réparation. Il m'a fait porter souvent ces dispositions douloureuses parmi lesquelles, m'ayant une fois montré les châtiments qu'il voulait exercer sur quelques âmes, je me jetais à ses pieds sacrés en lui disant « Mon Sauveur, déchargez plutôt sur moi toute votre colère et m'effacez du livre de vie plutôt que de perdre ces âmes qui vous ont coûté si cher. » Voilà ce que l'amour fait dire à une âme amoureuse du bonheur de son Dieu. Et il me répondit, « Mais elles ne t'aiment pas et ne cesseront de t'affliger. Il n'importe, mon Dieu, pourvu qu'elles vous aiment, je ne veux cesser de vous prier de leur pardonner. Laisse-moi faire, je ne peux les souffrir davantage. » Et l'embrassant encore plus fortement, « Non, mon Seigneur, je ne vous quitterai point que vous ne leur ayez pardonné. » Et il me disait, « Je le veux bien, si tu veux répondre pour elles. » Voilà, ça c'est le cœur de l'âme victime. Elle répond, en fait, pour l'âme qui ne peut pas offrir pour elle. Oui, mon Dieu, mais je ne vous payerai toujours, avec quelle monnaie va-t-elle payer ses âmes, qu'avec vos propres biens, qui sont les trésors de votre sacré cœur. Donc ce n'est que par le cœur de Jésus qu'on pourra acheter, entre guillemets, acheter, c'est-à-dire racheter, s'il s'agit d'une notion de rachat, c'est ça la satisfaction, des âmes, on va dire, au péché, hein, vouées, leur liberté a fait ce choix du péché, qui se sont éloignées de Dieu. Alors attention que ce petit dialogue entre Jésus et notre sainte sœur, sainte Marguerite Marie, ne nous fasse pas dire une hérésie. Dieu ne souffre pas de nos péchés, et pourtant cela... par rapport à ce petit dialogue, on pourrait se dire, ben alors ça le fait souffrir, mais Dieu est dans sa gloire, hein, et il ne souffre pas comme nous, on peut souffrir. Et aujourd'hui, de dire, parce que c'est sans cesse un éternel recommencement, les hérésies, et du coup, Dieu aurait comme besoin de nous, parce que il est, comment dirais-je, c'est un homme agrandi, il s'est incarné, c'est certain, mais il reste Dieu. Et Dieu, même si il demande à Sainte Marguerite Marie de répondre pour ses âmes, Dieu ne souffre pas dans son ciel. Alors, il ne laisse pourtant pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent, mais par contre, ils ne peuvent pas lui nuire. Saint Thomas enseigne, on parle de colère en Dieu, on vient de le dire, hein, il est en colère, il peut l'être aussi vis-à-vis de nous, au sens non d'une passion de l'âme, ça c'est la nôtre, hein, la colère, hein, mais d'un jugement de justice. En tant qu'il veut tirer vengeance du péché, le pécheur ne peut certes pas, en péchant, nuire à Dieu effectivement, dit saint Thomas. Dieu n'est donc pas blessé en lui-même de nos fautes, au sens où cela atteindrait son être profond. Mais il est bien blessé lui-même, en ce sens que le péché lui déplaît. Le péché mortel, ajoute saint Thomas, déplaît à ce point à Dieu qu'il fait que le pécheur lui-même déplaît à Dieu, en tant qu'il enlève la beauté de la grâce que Dieu aime en lui, hein, dans le pécheur. Hein. Le fait de pécher, on s'abîme. Et c'est ça qui fait que Dieu, sa souffrance, qui n'est pas la même que la nôtre, ou pas la pensée de la même manière, eh bien, c'est pas en tant que le péché, mais la privation du bien, de la grâce. Donc, en cas de faute, tout le dommage se situe du côté du pécheur. Et concernant les clercs indignes, Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, un autre exemple par rapport aux âmes pécheresses, « La vérité, la voici donc, ils me frappent, du moins ont-ils cette intention, même s'ils me frappent avec ce qu'ils trouvent, non pas qu'ils puissent me blesser ou m'atteindre, je fais comme le rocher, qui, lorsqu'il reçoit un coup, le renvoie sur celui qui le lui a asséné. » leur puante offrande ne peuvent me nuire, sinon ils ne seraient pas Dieu. Hein. Elles se retournent au contraire contre eux comme des flèches empoisonnées. La faute qu'ils commettent les prive de la grâce pendant cette vie en leur faisant perdre le bienfait du sang, hein, du coup les mérites de sa passion, hein, faut l'entendre ainsi. Donc, lorsque la théologie enseigne que le péché de l'homme blesse l'honneur de Dieu, on doit préciser que son honneur en question, bah, c'est nous. Hein? Puisqu'il nous aime un peu comme lui-même. Hein? C'est le manque de voir la grâce en nous qu'il blesse. Et du coup, cette grâce, c'est lui. Hein? C'est sa vie divine. Vous voyez la hauteur que nous fait prendre en somme saint Thomas, hein, par rapport à cette notion de réparation. Donc, lorsque la théologie enseigne que le péché de l'homme blesse l'honneur de Dieu, on doit préciser que son honneur en question, c'est nous, puisqu'il nous aime un peu comme lui-même. Dieu n'est miséricordieux qu'en raison de son amour, en tant qu'il nous aime comme quelque chose de lui-même, précise saint Thomas d'Aquin. Soulignons à nouveau que la miséricorde ne saurait être vécue en Dieu de la même manière qu'en l'homme. En ce qui nous concerne, la misère d'autrui provoque un attristement et donc une perturbation, tandis qu'en Dieu, cela ne le déprime pas, hein, mais il s'empresse d'offrir au pécheur les moyens pour qu'il se sorte de son enlisement, d'où la miséricorde, d'où son Sacré-Cœur. C'est par son Sacré-Cœur qu'on pourra sortir de l'enlisement. Hein. Nous, on est dans l'affect par rapport à la miséricorde. Alors voici un autre dialogue entre Jésus et la bienheureuse Conchita Cabrera de Armida. C'est la Mexicaine la mystique mexicaine qui interroge le Seigneur. Dis-moi Jésus, Jésus, souffres-tu au ciel? Si oui, comment cela est-il possible puisque ton humanité est glorifiée? Le Christ lui répond, au ciel, ce ne sont pas des douleurs physiques que j'endure, mais des souffrances spirituelles. Car les outrages qui sont faits à ma divinité continuent. Tous les jours, enfin, nous on lit France catholique et je regarde un petit peu les infos, on reçoit toutes les semaines je crois, et bien voilà, il y a assez régulièrement, vous êtes plus au courant de moi que ça, que moi, et bien il y a toujours des sacrilèges commis envers le Saint-Sacrement, hein, hostie volée, tabernacle pillé, vierge démolie, croix volée, enfin voilà, c'est... Sache que mon rôle de médiateur et de victime n'a pas pris fin avec ma mort, mais qu'il continue dans l'Eucharistie. Et la vocation victimale qui est la nôtre, et la fête de, qu'il a demandé d'instituer, celle du Sacré-Cœur, c'est en vue hein, de tous les sacrilèges commis vis-à-vis de son sacrement d'amour exposé sur nos autels. C'était ça, c'est l'unique intention de notre Seigneur dans cette troisième apparition. Hein. Je le répète, il ne s'agit pas de douleurs physiques, mais de souffrances mystiques, lesquelles n'en sont pas moins réelles. Pour pouvoir continuer à aider l'homme jusqu'au bout, la toute-puissance de Dieu a une idée d'assouvir cette soif d'amour infini en instituant l'Eucharistie dans laquelle je me suis enfermée volontairement, où je suis prisonnier jusqu'à la fin des siècles. Je n'y souffre pas de la même manière que lors de ma vie sur la terre, mais j'y souffre mystiquement. Je ne suis heureux que lorsque quelqu'un vient me tenir compagnie. Sacrifie-toi donc avec moi pour me consoler. J'ai soif de sacrifice. Ce monde ne me donne qu'amertume avec sa sensualité. Il y a si peu de personnes qui se souviennent que je suis là dans le tabernacle, comme au calvaire, priant et m'offrant pour elle au Père éternel. Toi, ne m'oublie pas, pense à moi. Fin de la citation de Jésus, ce petit dialogue avec Conchita. Alors, le Christ est donc écarte toute douleur physique, mais parle de souffrance mystique. Alors, peut-on préciser ce que peuvent être ces souffrances d'un type particulier? Si Dieu souffre, c'est en quelque sorte, pour reprendre les mots d'Origène, prenons garde de ne pas projeter en Dieu nos limites humaines, hein, d'essayer de comprendre, ça c'est j'ai déjà dit, mais je le redis, c'est perdu d'avance, vous ferez obligatoirement fausse route, si vous essayez de comprendre Dieu dans vos vies, ce qui vous arrive, à travers votre propre expérience, par exemple de la souffrance, même du bonheur, comment je dois prendre telle et telle décision, si ça part à partir de votre expérience humaine, comme Dieu est divin, hein, certes humain, mais 100% humain, 100% divin, Jésus, eh bien, vous serez toujours, on va dire, en deçà. Hein, et je dis pas souffrance comme bonheur. Hein. Alors, vous allez dire, voilà, ne faites pas rentrer Dieu qui est infini dans votre pensée qui est finie. Donc ça demande de se laisser faire dans ce qu'il va me demander et de ne pas s'enfermer sur une expérience et de me dire la dernière fois j'ai souffert telle situation, ça veut dire que la prochaine fois où j'aurai une épreuve, où j'aurai quelque chose qui me sera difficile, je fais une copie-coller, à chaque fois c'est ça que je vais avoir. Non, c'est vous vous enfermez, vous empêchez au Saint-Esprit de vous prendre hein, et de vous purifier et de vous agrandir, de vous dilater pour que Dieu rentre davantage. Hein. Donc le truc, c'est qu'il faut couper court à notre sensibilité, hein, au retentissement qu'a la sensibilité dans notre pensée. Donc s'abandonner, c'est ça. Hein. C'est pas... je sens que tout va bien, alors je suis dans l'abandon. C'est pas de l'abandon, ça. On peut être dans une attitude d'abandon Et puis les larmes qui nous coulent et en somme sentir qu'on a peur, mais ne pas seconder la peur, c'est-à-dire faire confiance, poser des actes de foi non sentis. La foi ne s'appuie pas sur le senti. Hein. Et pour comment dirais-je, laisser en somme Dieu faire son œuvre en nous. Donc prenons garde de ne pas projeter en Dieu nos limites humaines, si on va se faire un Dieu à nous. En somme, chacun a son Dieu aujourd'hui, hein. C'est pas lui, chacun. Et pourtant, on nous dit tous, ouais, que c'est le vrai Dieu. Je suis désolée, enfin, je veux dire, vous mettrez peut-être une bonne partie de votre vie à découvrir qui il est, ce Dieu trois fois saint. Désolée, il y a trois personnes. Hein. Alors, le Très-Haut n'est pas un homme agrandi. Et c'est ça qu'on fait, en fait, quand on projette nos pensées sur lui. Il est le Dieu transcendant. Je suis Dieu et non pas homme, rappelle le prophète Osée. En ce qui concerne cette mystérieuse souffrance mystique, on doit dire que Dieu ne souffre pas, comme nous, du mal et du péché. Mais il le connaît. Le mal, enseigne clairement saint Thomas, est connu de Dieu non par sa propre notion, mais par celle du bien. Voilà. Nous, on connaît le mal par l'expérience du mal. Dieu connaît l'expérience du mal par l'absence du bien dans sa créature. Vous vous rappelez, je vous avais donné pour expliquer leur sainte, donc Jésus à Gethsémani, à travers les paroles du Père Verlinde, que Dieu ne connaît pas l'existence du mal, il n'a pas créé le mal. Hein? C'est nous, je suis désolée, qui sommes à l'origine du mal en péchant. Hein? Donc c'est pour ça que quand il m'arrive quelque chose qui, à mes yeux, est mal, ne peut pas venir de Dieu. Voilà. Par contre, comme Dieu ne m'abandonnera jamais, parce que je suis sa créature et je n'existe uniquement parce qu'il m'aime, si c'est ça l'instant même de m'aimer, je tombe dans le néant, et ce n'est même pas inscrit dans le programme de Dieu, ça n'existe pas en Dieu. Hein. L'absence de son amour, c'est son essence. Eh bien, ce mal, c'est moi qui en suis à l'origine, ou mon entourage. Mais comme il est Dieu, il le fera contribuer à mon bien, le mal. De même, Dieu connaît le mal physique à travers l'idée qu'il a de l'intégrité parfaite de la créature. Et souvenons-nous que pour saint Thomas, le mal est un manque d'être. C'est toujours par l'absence, en fait, que Dieu mesure la chose et pas nous. Nous, c'est toujours dans le sens du mal ou douleur ou physique atteint par la maladie, hein, ça qui sont les conséquences du péché. Alors, une autre considération peut être ajoutée, permettant de mieux comprendre la souffrance mystique du Christ ressuscité. Dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, le pape François s'interroge. Nous nous demandons comment il est possible d'être en relation avec le Christ vivant, ressuscité, pleinement heureux, et en même temps de le consoler dans sa passion. Pour répondre de la manière la plus juste possible, il importe d'être au clair en ce qui concerne le rapport de Dieu au temps, mais aussi de bien voir que la croix n'est pas volatilisée dans la résurrection. Elle est transfigurée dans nos vies, c'est pareil. Dans la gloire du ciel, le Christ ne souffre plus, mais il demeure en état d'immolation. Nous avons souligné à plusieurs reprises que la foi de l'Église enseigne que le Christ a souffert en raison de sa nature humaine et non en sa nature proprement divine. Si le Christ, dans la gloire de sa résurrection, ne souffre plus physiquement, comme ce fut le cas au Golgotha, il demeure pourtant en état d'immolation dans la disposition d'offrande d'amour du calvaire. Le pape François enseigne, il convient de considérer que le cœur ressuscité conserve sa blessure comme un souvenir constant et que l'action de la grâce provoque une expérience qui n'est pas entièrement contenue dans l'instant chronologique. Donc pour appuyer son propos, le pape François reprend une parole de Pie XI expliquant comment nos sacrifices peuvent réparer les outrages faits au Christ alors qu'il est désormais dans la gloire. Je le cite, « Quelles consolations peuvent apporter au Christ régnant dans la béatitude céleste ses rites expiatoires ? Toute âme aimant Dieu avec ferveur, quand elle regarde le passé, peut voir et contempler dans ses méditations le Christ travaillant pour l'homme, affligé, souffrant les plus dures épreuves pour nous les hommes et pour notre salut. Presque abattu par la tristesse. Hein. » Vous lisez la Passion selon saint Jean. Voilà, vous pouvez vous dire, c'est aujourd'hui, comme vous pouvez aussi vous dire, c'est du passé. L'angoisse et les opprobres. Bien plus, écrasé à cause de nos fautes, dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Tout cela, les âmes pieuses ont d'autant plus de raisons de le méditer que ce sont les péchés et les crimes des hommes commis en n'importe quel temps et qui ont causé la mort du Fils de Dieu. Dieu n'a pas le même rapport au temps que nous. Dieu ne connaît pas le temps avec sa chronologie d'instants succédant à d'autres instants. Ceci est le propre de la condition humaine terrestre. En Dieu, passé, présent et futur forment un seul instant. Et il y a une visitandine d'un Nancy que j'aime beaucoup, qui est rentrée au ciel aujourd'hui, et qui parle de cet instant présent, qui est propre hein, aussi à la spiritualité de la visitation, qui parle de sacrement de l'instant présent. Le sacrement de l'instant présent. L'instant présent, c'est Dieu. Hein. Et quand on se tient sur l'instant présent, on communie à Dieu. On communie au passé, au présent et au futur. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors là, je fais juste une petite parenthèse, mais quand vous regardez aujourd'hui, après nous, on s'en rend compte dans les vies religieuses, qui sommes pourtant dans un autre rythme, le rythme des offices, on dit une minute, ce n'est plus 60 secondes. Ça va extrêmement vite. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. De voir, voilà, on court, hein, tout va vite. On est déjà rendu au mois de juin. On est déjà, enfin, le mois de juin, vous le commencez, que vous déjà, dans votre emploi du temps, vous dites, peut-être il y a déjà plein de situations, vous avez déjà rempli votre mois, et vous dites, on est déjà au mois de juillet alors qu'on n'a même pas commencé le mois de juin. Je ne sais pas si vous, on est de plus en plus acculé par le rythme. Hein. Alors que là, on nous dit, c'est son œuvre, hein, il n'est pas dans la chronologie, et en même temps, c'est lui qui a créé le temps. Donc, moi, j'ai ma petite idée là-dessus, hein, mais je le partagerai si vous me le demandez. Mais voilà, c'est une invitation à creuser avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire voilà, on dirait que quelqu'un a mis sa main sur sur le temps. Hein, parce que la précipitation, c'est un élément, négatif dans la vie spirituelle, la précipitation. Hein, la vie intérieure, chez les grands spirituels, ils vous pointent l'empressement comme un grand danger pour la vie intérieure. C'est juste voilà, des indications, mais ça veut dire qu'il faut reprendre ce rythme, comme je dirais quelque part, faut reprendre la main hein, sur ce temps qui doit être au service de Dieu et pas de l'empressement. Hein. Donc couper, même pour une religieuse, son téléphone, je veux communier à chacun à Jésus Eucharistie, parce que je suis une âme victime, et l'âme victime c'est l'hostie qui se laisse en somme briser par les mains de Jésus, et ce sacrement je peux y communier à cette hostie ben, dans l'instant présent, c'est ça le sacrement de l'Eucharistie, hein, ben, dans mon quotidien, et du coup c'est à moi de décider que la minute, je veux la vivre là, présent là. Le pape François écrit « Lorsque l'Écriture affirme que les croyants qui ne vivent pas en accord avec leur foi crucifient pour leur compte le Fils de Dieu. Hein, » toutes ces petites apostasies qu'on fait, c'est-à-dire ces manques de fidélité à la grâce. Voilà, j'ai ma fille qui vient de présenter son fiancé. Il va falloir que j'aborde des sujets, on va dire. Eh bien, bon, tant mieux, hein, rendez grâce à Dieu si justement ils sont dans une vraie démarche de fiançailles avant de se donner au mariage l'un à l'autre. Mais si ce n'est pas le cas, quand on est parent, on a une vérité à dire. Oui, mais il risque de punir. demander de dire la vérité. Hein. Par contre, il y a manière de dire la vérité, enfin, il y a des manières de la dire. Mais c'est, si on ne la dit pas, c'est une apostasie, c'est une petite apostasie, parce qu'on les laisse dans le péché mortel. Hein. Et petit à petit, comme dit le pape François, eh bien, on crucifie hein, le Fils de Dieu. Hein. Il est, on le redisait encore, aujourd'hui, il est la vérité, et c'est une personne. Donc je complète, ou lorsque j'endure les souffrances pour les autres, hein, je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Ou que le Christ, durant sa passion, a prié non seulement pour ses disciples d'alors, mais pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en lui. Alors elle dit une chose qui brise nos schémas limités. Elle nous montre qu'il n'est pas possible d'établir un avant et un après sans aucun lien, même si notre pensée ne sait pas comment l'expliquer. Les séparations temporelles que notre esprit utilise ne semblent pas contenir la vérité de cette expérience croyante dans laquelle se fusionne l'union avec le Christ souffrant et en même temps la force, la consolation et l'amitié dont nous jouissons avec le ressuscité. Voyons alors l'unité du mystère pascal dans ces deux aspects inséparables qui s'éclairent mutuellement, ce mystère unique rendu présent par la grâce dans ces deux dimensions, fait que nos souffrances sont illuminées et transfigurées par la lumière pascale de l'amour, alors même que nous cherchons à offrir quelque chose au Christ pour le consoler. Toujours le pape François. Hein. Donc le détour par les notions de mérite et de satisfaction, et puis cette dernière de la souffrance du Christ, nous a permis de mieux circonscrire le sens précis des paroles de saint Paul avec lesquelles j'avais commencé le premier entretien il y a un mois. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Le Christ a satisfait à notre place pour que nous puissions satisfaire à notre tour. La satisfaction de l'unique Rédempteur n'est pas une tour d'ivoire fermée sur elle-même, elle est plutôt un pont ouvert à la participation des hommes qui peuvent mériter, c'est-à-dire satisfaire à leur tour. Toutefois, la satisfaction du Christ et la nôtre ne sont pas à mettre sur le même plan. Celle du Christ fut parfaitement suffisante pour le pardon du péché, la nôtre est parfaitement dépendante. C'est bien la démarche qu'on a quand on commence notre heure de présence. On est en union, en communion avec Jésus présent dans son Eucharistie, et de cette union, tout ce qu'on va faire va va recevoir une valeur salvifique grâce à la passion du Christ. Et on ne peut être fécond, enfin du coup notre satisfaction ne peut être féconde qu'en étant branché sur la satisfaction du Christ. Donc si on ne vit pas à partir du Christ, tout ce qu'on fera tombe à côté, n'a aucune valeur. Nous ne pouvons rien ajouter à la surabondante satisfaction du Christ, mais en collaborant à l'œuvre de l'unique satisfacteur, nous nous disposons à en recevoir les effets et même à en faire profiter nos frères en humanité. La parole de saint Paul, éclairée par les notions de mérite et de satisfaction, met en évidence et le primat de la grâce et la grandeur de notre vocation. Je ne sais pas si on mesure la grâce qui nous est faite d'être sauveur, on va dire, au titre donc de la dépendance qu'on a par rapport à la passion du Christ, par rapport au Christ, mais on a quand même cette place. Hein. Donc, on collabore ainsi au salut du monde, si on le veut, bien entendu, mais c'est pas c'est vrai qu'il nous a mérité le salut, mais il nous demande cette collaboration, même si, en somme, selon saint Thomas, il n'a pas besoin de nous parce qu'il a satisfait et c'est surabondant. Mais Dieu veut avoir besoin de nous par pure miséricorde. ce qui nous donne notre grandeur. Et nous, notre grandeur, ce serait de chanter la passion du Christ et de partir à partir de soi et de savoir, en somme, d'attribuer un sens à ce qu'on fait à partir de soi. Alors que Dieu nous demande d'entrer dans cette dépendance de du mérite de sa passion. Alors je voudrais aborder une autre notion pour celle du Christ et de l'Église, c'est-à-dire cette personne mystique, l'Église est le corps mystique du Christ, ce qui est une notion qui des fois vaut toujours une bonne définition dans nos têtes, toujours pour entrer dans cette démarche victimale qui est la nôtre quand on est garde d'honneur. Donc le Christ personnel et le Christ total. Une autre dimension de la foi contribue à la juste interprétation de cette notion, c'est le lien très fort que saint Thomas met en relief entre le Christ et l'Église. Donc saint Thomas parle du Christ et de l'Église comme une seule personne mystique. Cette notion qu'on trouve dans son commentaire de l'Épître aux Colossiens est une véritable clé de compréhension de la parole de Paul. Il faut comprendre, écrit Thomas, que le Christ et l'Église sont une seule personne mystique. Chacun des justes est comme un membre pour cette tête. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Les mérites du Christ, c'est-à-dire de la tête, sont infinis et chaque saint apporte quelques mérites selon sa mesure. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Je complète ce qui manque à la passion du Christ, c'est-à-dire de l'Église entière dont le Christ est la tête. » Alors, vous allez dire « Mais attends, vous venez de nous dire que la passion du Christ est surabondante et qu'il n'y a pas besoin d'en ajouter, qu'on est dans cette dépendance. » C'est comme si, là, je vous disais l'inverse de ce que je viens de vous dire. Eh ben non. « Je complète », ça veut dire, c'est-à-dire « J'ajoute ma mesure ». Et cela dans ma chair, c'est-à-dire en souffrant moi-même. Ou encore, les souffrances qui manquent en ma chair, il manquait en effet au Christ, comme il avait souffert en tant que Christ dans son propre corps, de souffrir en Paul, l'un de ses membres, et de même en tous les autres. Alors les choses se précisent. Si on considère Jésus en tant que personne individuelle, on ne peut rien ajouter à ses mérites qui sont infinis, on vient de le dire, mais le Christ, tout en étant une personne individuelle, du fait qu'il est créateur et sauveur, est aussi la tête d'une autre personne, si l'on peut dire, et il forme avec l'Église le corps mystique, une seule personne mystique, hein, le Christ et l'Église. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a deux Christs qui n'en font qu'un, bien sûr, le Christ en tant qu'être personnel et le Christ total en tant que le Christ est aussi la tête d'un corps plus grand qu'est le corps mystique, le Christ uni à son Église. Je cite saint Thomas, « Le Christ et ses membres sont une seule personne mystique. Aussi, les œuvres de la tête sont-elles, d'une certaine façon, celles des membres. » Le manque à compléter n'est pas en Jésus, hein. Il est en Paul, il est en chacun de nous. On comprend alors le sens profond que donne saint Paul lorsqu'il affirme compléter dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ. Il ne prétend pas compléter quoi que ce soit qui manquerait à la satisfaction de l'homme Jésus en tant que personne individuelle. Ça a été surabondant la charité du Christ. Paul veut compléter ce qui manque au corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, en laquelle le Christ poursuit, déploie, achève sa passion. Ce qui manque au Christ, c'est donc d'achever en Paul et en tous sa passion résurrection. Ce n'est donc pas en Jésus-Christ qu'il y a un manque, mais en Paul, donc en chacun d'entre nous, chacun peut mettre son prénom. Et lorsqu'il dit ce qu'il manque au Christ, le Christ en question est le Christ total, tête de l'Église. Il revient donc à chacun d'accueillir la rédemption du Christ. À chacun, c'est pas instantané. lui permettre ainsi de déployer en nous sa propre satisfaction, c'est-à-dire tout son sang, tous ses mérites, toute sa passion, vécue par lui de manière surabondante il y a 2000 ans. Là, aujourd'hui, même si ça fait 2000 ans, dans ce qu'il va me demander de vivre, il va falloir que je m'ouvre à cette passion, qui vient me visiter par telle et telle épreuve. La grâce ne fut pas dans le Christ comme dans un homme particulier, mais comme dans la tête de toute l'Église. Tous lui sont unis comme les membres à la tête, de façon à constituer mystiquement une seule personne. Et c'est pour cela que le mérite du Christ s'étend aux autres en tant qu'ils sont ses membres, comme l'action de la tête dans un homme appartient en quelque sorte à tous les membres, car la tête ne perçoit pas seulement pour elle-même, mais pour tous les membres. Alors donc, laisser Jésus compléter en nous sa passion, donc nous venons de le voir, comment le manque à compléter n'est pas en Jésus mais en chacun d'entre nous, puisqu'il s'agit de permettre à la satisfaction du Christ de se déployer en nous, afin que nous devenions de plus en plus le Christ lui-même, crucifié et glorifié. Donc, tout ce qui m'arrive n'a pas d'autre, je veux dire, intérêt, hein, que de permettre à Dieu de vivre cette satisfaction en moi. Et c'est comme ça qu'il nous transforme et qu'il transforme le monde. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, s'est livré pour moi. Donc lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, une tâche qui nous angoisse, une rencontre que nous appréhendons, ne cherchons pas à porter cela tout seul. Hein. C'est si nous voulons satisfaire, si nous voulons compléter la satisfaction en nous-mêmes, il est important de laisser Jésus, l'unique satisfacteur, porter en nous ce que nous ne sommes pas capables de porter par nos propres forces. Et je dirais que c'est ça l'abandon. Hein. Sans sentir, hein. C'est pas parce que je ne sens pas que je suis, on va dire, pris en charge par Dieu dans l'épreuve, que Dieu ne satisfait pas en moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il attend ? Le oui. En somme, compléter en notre chair ce qui manque à la passion du Christ consiste à s'abandonner comme un enfant, le laisser assumer en nous sa propre satisfaction, c'est-à-dire notre salut. Et quand on est dans cette démarche de réparer par rapport à la tête du Sacré-Cœur et cette vocation qui est la nôtre d'un garde d'honneur, ou celle qui demande dans la troisième apparition à Sainte Marguerite Marie, et du coup à tout l'institut qui est la visitation de réparer, c'est de s'ouvrir à la passion et à la résurrection du Christ dans le très très concret de nos vies. Hein. Et ce très très concret, pour citer toujours Saint Thomas, qu'on aurait tendance, et c'est vrai qu'il y a des phrases qui peuvent nous paraître un petit peu, même si j'ai passé mon temps depuis deux séances, à répéter toujours un peu la même chose. Les saints sont capables d'actes sublimes de réparation. On l'a vu avec Sainte Marguerite Marie. Alors du coup, on ne se sent pas concerné. Hein. Que cela ne nous décourage pas. Commençons humblement par réparer à travers des petites choses avant de prétendre à de grandes actions généreuses. D'autre part, étant donné que le combustible de la réparation est l'amour, on l'a dit, c'est la charité du Christ qui lui a permis de satisfaire et en plus qu'elle soit surabondante pour le péché qui est le nôtre, mais aussi du péché originel. Tout peut être offert, en réparation, pas uniquement lorsque ça fait mal, mais aussi lorsque ça fait du bien. Manger et boire, ça c'est Saint Thomas, hein, manger et boire selon la tempérance, c'est-à-dire la justesse, jouer et se divertir sont méritoires chez celui qui a la charité, enseigne Saint Thomas. C'est la charité comme c'est celle du Christ, comme il redisait dans la troisième apparition à Sainte Marguerite Marie, tu as mon cœur pour réparer. Hein? Donc, et de quoi est fait le cœur de Jésus? De la charité, de l'amour, hein? Qui va jusqu'à, et ça c'est trop beau, c'est réparer consiste à élever le niveau de l'amour et du bien pour noyer en quelque sorte le mal, dit le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus. Hein? C'est par un trop plein d'amour, hein? C'est aussi ce qu'il dira à Conchita, la bienheureuse Conchita, que le coup de lance, hein, a permis, en fait, contre ce geyser, hein, c'est vrai que si ça a été bien rendu dans la Passion du Christ par Mel Gibson, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, ça a été un vrai geyser quand le longin perce le flanc, et du coup son amour était tellement compressé dans le cœur de Jésus que ça a été un soulagement, il le dit à Conchita, de pouvoir déverser son trop-plein d'amour. Et c'est ça, le satisfaire, de réparer, hein, les offenses que reçoit Jésus au Saint-Sacrement de son amour, c'est le trop-plein de son cœur qu'on va puiser, donc c'est la charité avec laquelle je vais accepter de rendre un service à mon prochain, même d'aller manger, de faire ma cuisine, même si j'ai de la joie à faire la cuisine. Nous, on a cette notion, alors sûrement pas vous, mais moi je dois l'avoir, donc je vous en fais profiter pour essayer de l'orienter sur le bien, qu'on pense qu'on répare qu'avec les choses qui nous coûtent. Hein. On peut réparer avec quelque chose que je... Tiens, ben, je vais au cinéma voir avec des amis le cœur de Jésus, eh bien je vais te demander Jésus, ben, je te l'offre, et c'est pour... le salut de mes frères en humanité, voilà. Et mais je le fais par charité. Je vais le voir par charité. Voyez. Du coup, ça me décentre. Et c'est ça la démarche de la réparation. Ça me décentre de moi-même. Et je mets du coup au centre, ben, le Christ. Je répare pour l'aimer davantage. Et on est quand même. Vous vous rappelez, j'avais donné cette notion. Et je terminerai là-dessus, de la réparation aujourd'hui, elle est parfois mal comprise, parce qu'on a voulu réparer, et ce que je peux comprendre, réparer tout le péché qu'a pu commettre certains ecclésiastiques par rapport à nos frères et sœurs. J'entends, si vous voulez, mais vous ne pourrez jamais redonner la dignité d'une personne avec une certaine somme d'argent. La réparation que Dieu veut nous donner, c'est la béatitude céleste, hein, c'est la vie en Dieu. Hein. Et on voit bien que les mots sont importants, parce que du coup ça piège, ça nous piège nous-mêmes. Hein. Et ce qu'il nous promet dans cette réparation, c'est plus d'amour. Voilà. Donc, j'ai pas à me prendre la tête dans mon programme de souffrance. On est complètement à côté quand on évoque ça sur la démarche de la réparation. C'est accueillir mon quotidien tel qu'il se présente. Voilà. Et dans les petits riens et les grandes choses qui vont faire la trame de mes journées, il y a des choses que j'envisage avec bonheur, il y a d'autres choses que j'envisage avec peur, angoisse. Je dis oui, tout pareil. Et j'y mets et je vais puiser dans le cœur de Jésus, donc c'est une œillade vers le cœur de Jésus. Je viens puiser ton amour pour le vivre, sans que je le sente. Je le sens, son amour, je suis embrasée comme ça de Marguerite Marie, je dirais tant mieux pour vous. Mais si demain, et même à la minute, vous avez plutôt du dégoût pour aller voir votre prochain, pourtant que vous en faisiez une joie, et subitement ça devient du dégoût, bah faut vous réjouir tout pareil, mais sans appui du sentiment, de la sensibilité. Et on l'avait dit aussi, il s'agit dans la volonté. Je veux le faire pour faire plaisir à Jésus. Voilà. Et petit à petit, dans cette dévotion qu'est la réparation, cette spiritualité qu'est la satisfaction, vous allez vivre votre quotidien, plus en vous disant c'est pour le salut des hommes, hein, il faut y aller, quoi. Hein, vous voyez, enfin, voilà, hein. Non, ça va être, il y a quelque chose qui se présente, et vous allez dire à Jésus, oh, mais si ça te fait plaisir, ben, si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Vous voyez, c'est pas grand chose. On a quand même déplacé. Est-ce que vous sentez que j'ai déplacé le curseur? Donc, bon allez, hein, faut y aller, Jésus. Hein, je suis quand même chargée du salut de mes frères. Je me suis inscrite à la garde d'honneur. Je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Il y a quelque chose de fatigant. Hein, c'est, même si je sais que c'est toi qui es le carburant, elle l'a bien dit, la sœur, c'est la charité. Bon, je déplace le curseur, c'est comme ça ne doit plus être moi qui répare, même si ça va passer par ma chair, c'est la satisfaction du Christ dans laquelle je vais me puiser, c'est mon quotidien, je puise dans le cœur de Jésus pour réparer. Donc du coup, je ne suis plus l'acteur, je suis bénéficiaire de la spiritualité, de la réparation. Et c'est, ah si ça te fait plaisir, Jésus, que mon mari arrive en retard et que mon souffle, que mon plat est complètement raté parce que je ne peux pas le réchauffer, parce que si vous savez, c'est les fameuses choses avec à base de, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne suis pas une très bonne cuisinière, que avec, vous savez, les blancs qu'on fait manger, un soufflé, voilà. Et qu'en fait, ça doit être mangé au moment. Si on le réchauffe, ça tombe et c'est pas bon, quoi. Et là, bah, si ça te fait plaisir que je présente ça à mon mari, pourtant je m'y ai mis du cœur, hein, et qu'il ne va même pas trouver ça bon, je vais sûrement avoir une remarque. Et si ça te fait plaisir, bah, ça me fait plaisir. Hein. Vous voyez, ça, c'est la réparation pour que votre mari comprenne qu'il faut arriver à l'heure, mais sans que vous le lui disiez. Je vous dis, tout le monde est bénéficiaire là-dedans. Et c'est ça le salut, mon salut, hein, c'est ça la vie intérieure, hein, dans laquelle je passe quand même pas mal de temps à vous l'expliquer. Et du coup, ça se fait sans moi, c'est moi qui suis visitée, et c'est mon mari qui changera sans qu'il y ait de frottement. Hein, et, parce que ce n'est pas nous qui changeons nos frères et sœurs, c'est Dieu, c'est la grâce qui change les gens. Mais nous, on a la prétention de changer quelqu'un, c'est complètement faux. Il n'y a que la grâce qui change. Ah si, votre mari va dire, ah oui, ça fait la 20e fois qu'elle me le dit, quoi. Voilà ce qu'il va se dire. Hein. Ça ne changera rien son comportement, si ce n'est que ce sera plus difficile dans la relation. Voilà. Et on ne fait pas, c'est dommage, on va dire. Hein. Et donc, l'enjeu, c'est, ça te plaît, ça me plaît. Mais on ne peut le vivre que si le centre, ce n'est plus nous. Et on ne peut pas ne plus être le centre si on ne met pas quelqu'un à la place. Et la place, elle est... Regardez, il est au centre de la croix. Hein, le cœur est au centre. Hein, il est au centre. Hein, donc c'est à lui de prendre la place. Donc, je dirais, on est trop... Hein, on a, de plus en plus, moi, dans ma prière, quelle prétention je peux avoir de penser qu'il ait besoin de moi. Hein. Il veut avoir besoin de toi, de ton amour, de ton offrande, mais il a sauvé le monde sans toi. Voilà. Et ça se fait sans nous. Voilà. Donc, quand il vous donne le retard du mari, les enfants, après avoir fait tout le ménage, qui vous salit tout en 5 minutes alors que vous avez peiné, si ça te fait plaisir, Jésus, ben ça me fait plaisir aussi. Vous voyez bien qu'on a quand même, on n'est plus dans le sentiment, hein. Mais c'est ça la vie, la vraie vie sur la terre. Hein. Et c'est ça la souffrance qui nous demande. Hein. C'est pas de se mettre un clou dans la chaussure, de se faire mal. Hein. Ceci dit, ça fait mal quand même. À quoi? À notre amour propre. Je pensais que c'était nécessaire que la maison soit tout le temps propre. Oui, sûrement, mais Jésus veut en même temps t'ôter à toi-même, te séparer de toi-même. Et ça passera par des choses qui sont contraires à ce que moi, je me suis mis comme exigence pour ma propre vie intérieure. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je suis pile à 16h. C'est quand même pas mal, hein. Pour quelqu'un qui parle beaucoup. Ah non, merci. Alors, juste, attends, madame, c'est là, on est à la fin. Je viens de réaliser, il y a tout était providentiellement. J'ai dit, mais attends, le week-end de la garde d'honneur tombe sur la visite du pape en France. Hein. Alors, je ne peux pas laisser le week-end de la garde d'honneur Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont se rendre à Paris. Et moi, j'y serai, mais de cœur, par la prière. Et du coup, moi, je dis, bah, Jésus, alors là, changer les dates du week-end avec un prédicateur, c'est déjà super compliqué d'en trouver un. Bon, c'est ton affaire, c'est comme il conduit tout. Hein. Donc, j'envoie un mail à notre prédicateur qui me dit, pas de problème, ma sœur, je suis libre les 17 et 18 octobre. Donc, le week-end de la gare d'honneur, c'est pour ça qu'il y a une affiche. Je vais, pour la paix du Sacré-Cœur, vous aurez au fond de la chapelle, j'espère, une liasse de tracts, et peut-être je mettrai aussi quelques affiches que vous allez pouvoir prendre librement pour déposer dans vos paroisses, donner main en main pour faire de la publicité pour le week-end. Donc c'est les 17 et 18 octobre, les 27 et 28 sont donc annulés. Il n'y aura pas de formation ce jour-là parce que je ne peux pas non plus faire quelque chose pour ceux qui y iront. Et ce que je voulais ajouter, c'est que ce qui est beau dans la démarche, c'est que le 17, c'était quand même le jour d'une formation. C'est l'anniversaire de l'entrée au ciel de Sainte Marguerite Marie. Elle est fêtée liturgiquement le 16, mais elle est morte un 17 octobre. Donc, voilà, hein, il sait bien faire les choses quand même. Voilà. Alors, Madame Franck, vous avez une question ?
Vous avez cité le pape François, et donc c'était très bon ce que vous avez dit.
Oui, c'est la dernière encyclique sur le cœur de Jésus, Delicit Nos, ouais. Et je terminerai, on va terminer par un Ave Maria, parce que je ne sais pas. Alors, je vous souhaite de belles vacances, hein, donc on se retrouve ensemble pour le week-end, il y aura donc le 15 septembre, et puis là, vous allez avoir, que ce soit en vacances, souvent, cette difficulté, peut-être pour d'autres, ce sera plus simple d'être, on va dire, avec plus de facilité d'être à l'heure, à son heure de présence. Et à la fois, quand on est en vacances, on a d'autres horaires. Donc, on est des fois troublé, mince, j'ai loupé mon heure. Eh bien, dans cette même démarche, le fait de, on supplie au moment où on y pense, de sentir que ça, bah voilà, mince, bah Jésus, ça te fait plaisir que je suis en retard? Bah, je suis en retard. Voilà. Et puis je prends le train en route. Vous voyez bien que ça nous dégage de tout ce qu'on s'est mis d'obligation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être à l'heure. Mais si Dieu permet, parce que pour moi, tout est permis par Dieu. Donc, pour moi, je veux dire, pour lui, quoi. Que c'est lui qui veut ça. Hein. Il est le créateur. Et tu veux ça pour moi, je le veux. Et vous verrez au fil de vos vacances et à la rentrée, vous direz, ben, je me sens quand même plus reposée, et pourtant les vacances ont été plus denses, mais je me sens intérieurement beaucoup plus appuyée sur lui que sur ma manière, mes différentes manières d'envisager les choses. Vous savez, on a tous des principes pour vivre. Et il faut ça, il me faut ci, s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas bien se dérouler. C'est des carcans. Et liberté des enfants de Dieu, ben voilà, si c'est ça que tu veux, ben c'est aussi ça. Et ça, c'est la spiritualité de la visitation, hein, le divin bon plaisir de Dieu. Donc je vous donne des bons tuyaux, parce que c'est ça qu'on vient de dire ici. On termine par l'Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint Joseph, Saint Jean, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Priez pour nous. Saint François d'Assise et Sainte Marguerite Marie. Priez pour nous. Bienheureuse Marie de Jésus de Villemartigny. Priez pour nous. Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes. Priez pour nous. Sœur Marie du Sacré-Cœur, Bernou. Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Belle fête demain, et ceux qui veulent vivre la fête du Sacré-Cœur vendredi à la Visitation, la messe est à 9h30. Dans le prolongement de la messe, le Père expose le Saint-Sacrement et on fait dans le Saint-Sacrement l'amende honorable. Après, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas à la visitation, ben vous pouvez tout à fait faire chez vous, dans votre coin prière, l'amende honorable. Et si vous ne pouvez pas aller à la messe, toujours pareil, ben Jésus, mon emploi du temps ne me permet pas. Par contre, mon devoir d'État, ça, j'y suis, c'est mon devoir. Et c'est tout pareil. C'est ça que tu veux, Jésus ? Ben, c'est ça que je veux. Et la Sainte Eucharistie, ce sacrement qui est l'instant présent, distillera hein, le sacrement de l'Eucharistie. D'accord ? C'est pas volontairement. Hein. C'est ton bon plaisir que je ne puisse pas y aller, parce que c'est mon devoir d'être à mon travail, etc. etc. Je ne vais pas y assister. Par contre, toute la journée, dans l'instant présent, je recevrai le sacrement, on va dire la communion spirituelle. D'accord ? Donc, il n'y a pas de journée entre nous ratée. Voilà, en grande union.